Climat, l'échauffement des esprits, Benoît Riteau, Richard Fremder.
Bonjour à toutes et tous, avec Benoît Riteau, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce premier numéro de votre émission sur l'actu du climat sans langue de bois, climat, l'échauffement des esprits. Bonjour Benoît, je suis ravi
Bonjour.
De vous accompagner dans cette belle aventure de l'actu climatique. Alors je le rappelle, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Paris 13, vous êtes mathématicien, ancien chargé de mission à l'Institut de mathématiques du CNRS et également auteur d'une bonne dizaine d'ouvrages.
C'est ça, oui.
C'est ça, bravo en tout cas. Ravi d'être avec vous hein, pour cette série d'émissions. On va quand même rappeler le principe, c'est ramener la science dans un débat qui aujourd'hui, j'ai l'impression, a tout de la religion. Est-ce que ça vous va comme synthèse ?
En partie, oui, effectivement, on a quelque chose de la religion, quelque chose de la pseudo-science et quelque chose de peur millénariste.
Bon, on va essayer de régler tout ça. Et pour nous accompagner dans cette rude tâche, parce que ça ne va pas être facile, nous serons aidés d'autres grands scientifiques, grands noms. Et aujourd'hui, c'est un peu notre parrain, puisque c'est le premier invité. Nous accueillons le professeur Vincent Courtillot. Bonjour Vincent Courtillot.
Bonjour.
Alors vous êtes géophysicien, ancien directeur de l'Institut de physique du globe de Paris. Vous êtes spécialiste du champ magnétique terrestre, de la géodynamique, je prends mon souffle, de la tectonique des plaques, bref de tout ce qui se passe à l'intérieur de la Terre et plus récemment de l'extérieur de la Terre.
Oui, c'est exact et j'ai publié un livre qui rassemble un peu toutes ces idées mais qui commence à être vieux déjà chez Odile Jacob que j'ai appelé Nouveau voyage au centre de la Terre et qui montre comment nous sommes passés du volcanisme et de la dynamique de l'intérieur du globe aux évolutions du climat.
Pas si vieux que ça, il a quoi, 2 ans?
Non, 2009.
Ah oui,
Tempus fugit.
Ah oui, c'est ça, là, ça passe vite. Cette première émission va poser les bases en fait, de toute cette série et revenir sur pas mal de points qui font écho à tout ce qu'on peut entendre ici ou là, qu'il faut le dire quand même, nous font plutôt peur. Alors au sommaire, on va faire un état des lieux sur les températures, le niveau marin, les événements extrêmes, la banquise, tout ça, on en entend parler, l'ampleur des évolutions, est-ce que le climat change, oui ou non? A-t-il toujours changé? A-t-il toujours autant changé? Bref, beaucoup, beaucoup de questions, mais j'ai envie de vous poser une première question à l'un comme à l'autre. Quelle est la différence? Et c'est une question presque de Madame Michu, parce que je suis Madame Michu. Quelle est la différence entre météo et climat?
C'est une très bonne question.
Professeur
et elle est trop souvent oubliée. La météorologie, ça, tout le monde sait ce que c'est. Et pour simplifier, le climat, c'est la météo sur 30 ans. Vous prenez tous les indicateurs de la météo, la température, les précipitations, l'ensoleillement, la pluie, la pression barométrique, et vous en prenez la mesure sur 30 ans. Et c'est ça qui représente le climat. Ce sont donc les changements moyens à long terme de la météo. Et confondre les deux est une très grave erreur. On aura l'occasion d'y revenir.
Et le terme le plus important, si je puis dire, c'est long terme, justement.
C'est long terme, c'est des décennies.
Très bien. Benoît, vous êtes...
Oui, tout à fait. Ça peut même être plus que 30 ans.
C'est,
30 ans, c'est une unité, un choix qui a été un peu conventionnel parce que ça aurait pu être 25, ça aurait pu être 35. L'idée, c'est on parle
c'est
en décennies,
génération.
Au moins une génération, et ça peut même être beaucoup plus parce qu'il y a des cycles climatiques qui sont évidemment beaucoup plus longs que 30 ans. Mais ce qui nous intéresse effectivement à l'échelle humaine, c'est le climat sur 30 ans, 50 ans ou 100 ans.
D'accord.
Et ça a une conséquence très importante du point de vue de ce que entendent les auditeurs des bulletins météo, c'est que quand on vous dit c'est le mois le plus chaud, c'est même l'année la plus chaude, c'est le mois le plus pluvieux, c'est tel record est battu à l'échelle de tout ce qui est très court, c'est la météo, ce n'est pas le climat. Et donc quand vous dit l'année dernière était la plus chaude depuis 10 ans, ce n'est pas forcément une indication climatique et il ne faut surtout pas mélanger les deux.
On va avoir, je crois, l'occasion d'y revenir plus longuement tout à l'heure, c'est évident. Alors, j'en ai rapidement parlé, hein, le changement climatique, c'est devenu une espèce de véritable religion. Alors, comme souvent, il y a la doxa et puis parfois quelques hérésies. Auparavant, on parlait de climato-sceptiques. Aujourd'hui, l'un comme l'autre, j'ai l'impression que vous êtes des climato-réalistes. Qu'est-ce que c'est que ce changement lexical? Est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Alors, on a toujours cette discussion. Apparemment, ça intéresse de savoir est-ce qu'il faut qu'on s'appelle climato-sceptique ou climato-réaliste.
Mais c'est pas neutre, hein, comme question.
Ça n'est pas neutre. Cela dit, je me méfie toujours un petit peu de ces arguties, de ces éléments de vocabulaire très précis. Pour moi, la vraie question, s'il y a une question de langage à poser, c'est comment doit-on nommer nos adversaires? Eux n'ont pas de nom. Et ça, personne n'en parle. Donc je les ai appelés les carbocentristes en cherchant une dénomination neutre, mais il n'y en avait pas. On dit les scientifiques, sous-entendu, toute la science est d'accord. Mais il y a, je crois qu'elle est plutôt là, la vraie question de vocabulaire. Pour ce qui est de climato-sceptique, climato-réaliste, alors quel que soit le nom qu'on se donne, on nous le reproche. Quand c'était climato-sceptique, on nous disait « oui, vous vous êtes approprié le scepticisme qui est très noble en science, c'est scandaleux. » Ou au contraire, on nous a dit « oui, vous voyez bien, vous êtes juste des sceptiques qui voulaient croire à rien. » Bon, maintenant, il s'agit je crois, pour moi, être climato-réaliste, c'est accorder plus d'importance à ce qu'on observe plutôt que ce qu'on imagine. Et constater que l'évolution actuelle du climat, mais on aura l'occasion d'y venir plus longuement, ne montre rien de bien spectaculaire.
On va avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que par rapport à cette... allez-y, professeur.
Il y a une ambiguïté dans la signification profonde du mot sceptique, et suivant le sens qu'on prend, il aura notre accord ou pas. Si le scepticisme, c'est le droit au doute, le droit au débat, il est fondamental. Et j'entends avec grande inquiétude des gens qui sont des scientifiques dire « le débat est clos, circulez, il n'y a rien à
absolument
voir ». Quand un débat est clos, c'est que la vérité est acquise, et je dis parfois en souriant à des chercheurs qui cherchent des financements, si vous avez la réponse et que vous avez compris, ça n'est plus de la recherche, et donc vous n'avez plus besoin de financement. Ce à quoi ils ne seront pas forcément d'accord. Et puis il y a le scepticisme qui est « je ne crois pas a priori à ». Et donc, bien évidemment, il faut garder l'esprit ouvert. J'ai beaucoup aimé une citation attribuée à Montaigne qui oppose les dogmatiques aux sceptiques et où Montaigne répond « je ne serai pas dogmatique, je ne serai pas non plus sceptique au sens négatif du terme sceptique ». Donc on est tombé sur ce terme de climato-réaliste. Je pense que toute personne sensée, tout scientifique qui attaque le problème, quelle que soit son idée, doit être réaliste et non pas dogmatique, ni systématiquement sceptique. Mais le débat est essentiel.
Et c'est vrai que je le répète moi à chaque émission historique, enfin d'histoire, c'est vrai que la science est vivante par essence même et qu'il n'y a pas de vérité. Enfin, il y a parfois des vérités à leur hache, mais ça change assez souvent et qu'il ne faut pas s'arrêter et jamais s'arrêter. C'est pour ça que j'étais absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors justement, vous avez parlé de... Vous en avez un petit peu parlé à l'instant, mais très souvent, on m'a dit « Ah bon, tu fais une émission sur les climato-sceptiques ou réalistes, mais alors tu vas bosser pour Total et tout. » Voilà ce qu'on peut vous envoyer aussi parfois. Quelle est la réalité des choses? Est-ce que vous, l'un comme l'autre, vous travaillez pour des grands groupes? Je suis désolé de vous poser la question, mais comme tout le monde se la pose, il faut, je crois, l'évacuer tout de suite.
Réponse non.
Alors, quand on est, comme je l'ai été, responsable d'un institut de recherche en sciences de la Terre, on ne travaille pas pour des grands groupes. Nous sommes financés par la recherche publique. Nous avons des financements complémentaires de gens qui sont les employeurs éventuels de nos étudiants, qui sont les découvreurs de ressources naturelles ou de ressources minérales dans le futur. Et il est évident que c'est une chose qui ne doit pas, et c'est notre déontologie, avoir d'influence sur notre façon d'envisager la recherche. Elle est indépendante, elle est guidée par une éthique. Et donc, il se trouve que dans mon cas personnel, en fouillant bien sur mes 40 ans de carrière, il y a une trentaine d'années, j'ai un étudiant brillant d'ailleurs, qui a été financé en partie par le groupe Schlumberger, pour des instruments qui servaient à mieux comprendre les données d'observation dans les forages. Ça doit se limiter à peu près à ça, donc je me sens totalement dégagé de ce genre d'accusation qui est irrelevant.
Je comprends, mais je crois qu'il fallait quand même en parler, parce que c'est vrai que beaucoup se posent la question, et c'est un des arguments forts qu'on oppose en général.
Benoît. C'est un argument dicté par la calomnie.
Oui, c'est vrai. Mais vous savez comment...
On pose toujours cette question aux climato-réalistes. On ne la pose jamais au camp d'en face.
Voilà, c'est ce que j'allais dire juste après. Donc.
Et si vous allez regarder sur le site internet d'un grand pétrolier français comme Total, vous verrez qu'ils ne sont absolument pas climato-réalistes et que ce n'est certainement pas chez eux qu'on obtiendra quelques financements que ce soit.
C'est vrai. Bon, eh ben, écoutez, on va revenir maintenant sur le débat proprement dit, enfin sur le contenu. Revenir notamment sur les conclusions depuis plusieurs années du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat qu'on appelle le GIEC. On pourrait résumer ses positions sur... Alors, le réchauffement climatique est un fait bien établi, on va revenir dessus. Est-il un fait bien établi? Il est d'origine anthropique, c'est un problème majeur pour l'humanité et une action concertée des gouvernements est nécessaire pour le combattre. Je pense qu'il faut revenir sur tout ça. Alors, état des lieux, le réchauffement climatique est-il oui ou non, messieurs, un fait établi?
La réponse simple et rapide... C'est oui. Mais même cette réponse-là mérite une analyse critique. Parce que réchauffement veut dire température. Et le problème, c'est que c'est très difficile d'observer, de mesurer la température moyenne de la basse atmosphère du globe terrestre. Ça nécessiterait en principe des mesures partout, tout le temps, depuis longtemps. Or, on a des stations qui sont réparties de façon irrégulière. Il y en a beaucoup moins dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Des stations qui sont beaucoup plus sur les continents que sur les océans. Un nombre de stations qui a changé au cours du temps dans les deux sens. Pendant une bonne partie du XXe siècle, les stations météo qui servent ensuite à accumuler les observations ont augmenté en nombre et en couverture. Mais à partir de la chute du mur de Berlin et de l'ouverture, la chute de l'Union soviétique et l'ouverture de la Russie, il se trouve que dans le Grand Nord, de nombreuses stations, tant au Canada qu'en ex-Union soviétique, ont été fermées. Donc on a moins d'informations sur les hautes latitudes froides qu'on en avait avant. Le résultat, c'est que le calcul d'une température moyenne, et je vous rappelle, une température climatique, ça veut dire moyennée sur des années ou des dizaines d'années, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir avec une sûreté suffisante. Et donc la discussion de l'incertitude qu'on commet est une chose importante. Il y a aussi des arguments sur lesquels je ne veux pas trop m'apesantir ici, mais de nature thermodynamique. On apprend à l'école, quand on fait de la thermodynamique, que la somme de deux volumes, c'est bien un volume. Si j'ajoute le volume de la pièce dans laquelle nous sommes à la pièce à côté, j'ai bien un volume en mètres cubes. Mais si je regarde porte fermée la température moyenne d'une pièce et de l'autre et que j'ouvre la porte, eh bien le résultat n'est pas simple du tout. Il dépend de la façon dont je vais ouvrir la porte et dont les échanges de chaleur vont se faire. En d'autres termes, la somme de deux températures n'est pas une température et la moyenne de toutes les températures de toutes les stations du globe n'est peut-être pas une température. C'est une grandeur qui existe toujours mathématiquement, mais elle n'a pas forcément de signification thermodynamique ou énergétique. Il faut garder ça dans un petit coin de la tête. C'est néanmoins, nous allons utiliser les données telles que le GIEC les observe et nous conclurons qu'il y a probablement bien un réchauffement climatique de la basse atmosphère de la Terre avec des grandes disparités régionales au cours du XXe siècle.
Alors, vous disiez qu'on manquait peut-être d'études, je ne comprends pas, parce qu'il y a des milliards et des milliards d'euros ou de dollars depuis 50 ans qui sont dépensés pour ce problème, cette problématique-là. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir toutes ces données ?
D'abord, on ne peut pas reconstituer les données qui nous manquent d'il y a 100 ans.
Bien entendu.
Or, c'est justement sur la longue durée qu'il faut faire les observations. Et toutes ces observations dont nous allons parler, le problème est justement... On en a plus aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu. On a des satellites en particulier qui mesurent des données de façon quasiment continue et bien plus rapprochée que sur Terre. Mais on n'a pas ces données depuis plus d'une trentaine d'années. Manque de chance. Les satellites, nous avons des satellites depuis 30 ans, 30-40 ans. C'est-à-dire qu'on a un point sur la courbe. Il aurait fallu avoir des satellites il y a 100 ans pour être à peu près sûr de ce qui se passait pendant le XXe siècle. Je pense d'ailleurs que beaucoup des problèmes que nous allons discuter aujourd'hui trouveront leur réponse dans le siècle qui vient, à condition qu'on ait encore 30, 40, 50, peut-être une centaine d'années. En tout cas, c'est nos descendants qui verront la réponse.
Donc ce dont on peut être sûr, c'est de données de ces 50 dernières années pour l'instant.
On est sûr des données, on est sûr. C'est très long d'accumuler, d'acquérir, d'archiver et de renseigner toutes ces données. Il y a 4 laboratoires dans le monde seulement qui le font.
Plus.
Pas plus. Un en Grande-Bretagne, 3 aux États-Unis, aucun en France, aucun en Allemagne. Donc tout le monde est obligé, comme on a besoin de le faire souvent en science, d'avoir confiance dans les collègues. Les données de ces divers centres ne sont pas en accord total, mais elles sont assez cohérentes et on s'en sert pour arriver aux conclusions dont on va parler dans la suite de cette émission.
Vous vouliez réagir ?
Oui, alors ce que dit Vincent est exact, il y a une grande disparité, il l'a dit tout à l'heure, il y a une grande disparité régionale, puis aussi une grande disparité temporelle dans l'évolution des températures. Si on dit qu'il y a eu globalement un réchauffement depuis 150 ans, on est d'accord là-dessus, mais c'est effectivement, comme on le disait, très grossier. Et si on va dans le détail, on se rend compte que ce réchauffement n'est absolument pas uniforme dans le temps, c'est-à-dire si on regarde juste la courbe de température de la Terre, on observe un réchauffement au début du XXe siècle, un tassement, même un très léger refroidissement au milieu du XXe siècle, encore un petit réchauffement à la fin du XXe siècle, et aujourd'hui plutôt à nouveau une période de tassement. Donc ça n'est pas du tout uniforme, et c'est aussi assez modeste. On n'a pas l'impression que, quand on regarde ce qu'on peut reconstituer des températures plus anciennes, il y ait une évolution extrêmement brutale, inédite, dans son ampleur et dans sa rapidité.
Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on entend tous ces cris d'alarme ? Que ça va monter de 4 degrés, 6 degrés. Moi, j'ai travaillé il y a des années avec des gens qui pensaient que ça allait monter de 15 degrés. Et que l'eau, enfin la mer serait à presque à Paris, aux portes de Paris.
Alors ça, c'est principalement ça se déduit de la théorie selon laquelle ce qui cause le réchauffement actuel est l'émission de gaz à effet de serre. Et comme nous émettons de plus en plus de gaz à effet de serre, eh bien ça va se réchauffer de plus en plus. Et ce qui fonde les prévisions du GIEC et des organismes de recherche, ce sont des modèles informatiques dans lesquels, en gros, vous mettez ce que vous pouvez des lois de la physique, vous faites les approximations nécessaires pour pouvoir faire des calculs, et quelque part dans le modèle, il y a l'idée que si vous mettez plus de gaz carbonique, ça va se réchauffer plus.
D'accord. Alors, dans ces modèles, évidemment, il y a ce qu'on y a mis. Je pense que personne ne doit imaginer qu'un programme informatique découvre des choses que l'on n'avait pas mises dedans. Il ressort ce qu'on y a mis, évidemment, en manipulant des informations nombreuses, lourdes, et qu'on n'aurait probablement pas eu le temps de faire à l'échelle humaine. Donc je ne suis pas du tout là en train de dire que l'informatique et les ordinateurs ne sont pas une magnifique découverte et un outil formidable, mais il faut faire attention à la façon de s'en servir.
C'est-à-dire que ça dépend des données qu'on y met, quoi.
Ça dépend des données qu'on y met, ça dépend de ce qu'on a compris. Ce que vient de dire Benoît, c'est que dans les modèles des scientifiques qui participent au GIEC dont vous avez parlé, il y a une certaine compréhension du réchauffement climatique qui est basée sur l'idée que le gaz carbonique et le méthane, gaz à effet de serre, et la vapeur d'eau, qui est le premier gaz à effet de serre de l'atmosphère, sont responsables d'une augmentation de ce qu'on a observé jusqu'à présent et que vient de décrire Benoît au cours du XXe siècle, et ils en font une projection sur le XXIe siècle. Le problème, c'est que ça ne vaut que ce que vaut la compréhension qu'ils ont aujourd'hui de la physique, et dans cette physique, bien pour aller très vite, tout le monde est à peu près d'accord de la façon dont réagirait l'atmosphère si on doublait la quantité de gaz carbonique qui y réside. Gaz carbonique sec, et cette augmentation est de l'ordre d'un degré. Benoît disait, ce sont des valeurs limitées. Le réchauffement climatique, entre guillemets, au XXe siècle, c'est de l'ordre de 0,7 degrés Celsius. Et si on doublait le gaz carbonique par rapport à la teneur qu'il avait avant le début du XXe siècle, ce qui n'est pas encore atteint, ça ferait un degré. Ça n'est pas ça la prédiction. La prédiction, elle est beaucoup plus grande parce qu'une partie des physiciens de l'atmosphère pensent que la vapeur d'eau dans l'atmosphère augmente l'effet du gaz carbonique. Mais cet effet, il n'est pas du tout compris de façon certaine. L'effet des nuages, l'effet des gouttelettes d'eau, des cristaux de glace, la présence de l'eau dans l'atmosphère est très difficile à modéliser. Et d'autres physiciens tout à fait estimables pensent qu'au contraire, la vapeur d'eau réduit l'effet du gaz carbonique. Et donc ce 1 degré de réchauffement dû au gaz carbonique, pour les uns, il passe à 3 ou 4 degrés, pas beaucoup plus. Pour les autres, il passe à 0,7 degré. Donc, c'est une inconnue. Et pour l'instant, la vapeur d'eau, au sens où je viens de l'entendre, n'est pas dans les modèles. Donc, les modèles climatiques ne comprennent pas encore suffisamment bien les nuages. Et tant qu'on n'aura pas mieux compris les nuages, qui sont une des grandes frontières scientifiques pour les chercheurs, eh bien, on aura des résultats intéressants, mais dont je ne vois pas comment on peut dire qu'ils sont certains ou probables à 95%.
On est bien d'accord que le climat, c'est un ensemble de faits, un ensemble de faisceaux, de faits. Les nuages, ça peut être un volcan, vous parliez des volcans tout à l'heure, ça peut être tout ça, ça peut être un tsunami, enfin toujours en fait, c'est quasiment un modèle comment est-ce qu'on dit, catastrophique,
un modèle chaotique
pardon, catastrophique. Alors
on a des raisons de penser effectivement que le climat est un système chaotique.
Mais ce qui, c'est bien d'avoir prononcé les deux mots, n'est pas forcément du tout catastrophique. Voilà, c'est ça. On peut être chaotique au sens où l'entendent les physiciens. C'est troublant pour le grand public qui voit dans ce terme le chaos. Le chaos des mathématiciens et des physiciens est passionnant. C'est une des grandes avancées de la deuxième moitié du XXe siècle. Ça n'est pas en soi inquiétant. Ça permet de mieux comprendre les divagations du climat minuscules.
D'accord. Alors, je parlais de religion tout à l'heure, mais c'est quasiment des problématiques judéo-chrétiennes. C'est pas bien, on est responsable de tout, l'homme doit faire pénitence.
Là, vous nous emmenez très vite sur ce que j'aurais bien vu comme étant plutôt la
conclusion. On ira alors tout à l'heure, si vous voulez.
Je veux bien en parler maintenant, si vous le voulez.
Non, mais si vous voulez.
Je pense que Benoît a dit que les climato-réalistes s'attachent aux observations. Souvent, les gens parlent de températures qui vont nous griller. Absurde. Ils parlent d'augmentation du niveau de la mer qui vont nous noyer. Absurde. Ils parlent de fonte des glaces et disparition des glaces arctiques et antarctiques. Absurde. Ils parlent d'augmentation catastrophique des événements extrêmes. Rien ne le montre. C'est tous ces points d'observation que je pense que nous devrions balayer avant d'en arriver au judéo-christianisme,
oui,
qui est un bon terme en effet pour décrire l'attitude majoritaire dans l'Occident.
Donc on a vu que les températures, montent un tout petit peu. Avec ça, on est d'accord. Alors, quid du niveau marin ? Vous en parliez à un instant. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage à la télé sur je ne sais plus quelle chaîne. On voyait qu'à New York, ça y est, tout le long de la côte, il commençait à monter des petits murets parce que ça y est, l'eau monte et que New York et toutes les villes vont être sous la mer dans quelques années.
Alors, Al Gore, dans son fameux film Une vérité qui dérange, avait fait tout un montage, une scénographie où il grimpait sur une échelle pour montrer comment on s'attendait à ce que la température et le niveau des mers augmentent. Et il avait montré une carte des États-Unis pour dans pas longtemps, il n'avait pas précisé combien, où on voyait le niveau de la mer augmenter de 7 mètres et toute la partie basse de la Floride et des côtes américaines noyée par la mer. Il avait oublié de signaler que ça, c'était une projection hypothétique à l'échelle de plusieurs milliers d'années dans l'hypothèse où la banquise du Groenland fondrait entièrement. Hypothèse qui n'est nullement avérée. Donc, voyons ce que disent les observations. Au cours du XXe siècle, le niveau de la mer globale a augmenté de 20 cm. C'est facile à retenir. XXe siècle, 20 cm. Quand vous regardez les données de ce qu'on appelle les marégraphes, les instruments qui, dans tous les ports du monde, mesurent l'évolution du niveau de la mer, on voit une courbe qui est pratiquement une droite. Donc on ne voit pas d'accélération. On a malheureusement, depuis quelque temps, malheureusement et heureusement, on va voir pourquoi, changé de méthode. On utilise maintenant des satellites là où on utilisait des observations au sol. Les observations sont bien plus denses, bien plus proches, mais malheureusement, elles sont récentes. Et on n'est pas sûr de la calibration entre les satellites et les mesures au sol. Depuis quelques dizaines d'années, il semble que l'augmentation est passée à 30 cm par siècle. Bon, l'accélération de 20 à 30 ne me paraît même pas démontrée dans la mesure où on a observé dans le passé des fluctuations plus grandes que ça. Et donc je pense que si on a quelques dizaines d'années, on verra les choses revenir sur cette moyenne et le plus raisonnable me semblerait de prédire plutôt à nouveau 20 cm d'augmentation au 21e siècle, comme ça a été le cas au 20e siècle, qui poseront problème dans certains endroits et qui seront sans doute réglées comme elles ont pu l'être au 20e siècle.
On peut toujours acheter une maison sur la côte, quoi.
Mais même si vous prenez les prédictions du GIEC, pas celles d'Al Gore, le GIEC n'est pas déraisonnable comme l'était Al Gore, la projection est de 40-45 cm. Je pense quant à moi que ça n'est pas démontré, mais même si c'était vrai, est-ce que c'est le lieu d'avoir peur ? Si on a su résoudre 20 cm au XXe siècle, est-ce qu'avec un engagement, c'est-à-dire de la recherche, de la réflexion, des ingénieurs, des réglementations, un financement, on ne sera pas capable de résoudre ces problèmes là où ils sont sérieux ? J'en suis quant à moi convaincu. C'est un des nombreux exemples où il est inutile de faire peur aux gens pour quelque chose à quoi il faut faire face éventuellement, mais qui n'a rien de terrifiant.
D'accord.
Je voudrais ajouter un mot sur le problème de la calibration, qui est très important parce qu'on nous dit, oui, avant, ça montait à un rythme de 20 cm par siècle et maintenant, c'est 30. Donc, quand même, on peut avoir peur d'une certaine accélération. Le 20 cm, il est donné par les marégraphes. C'est donc, comme le disait Vincent, les instruments au sol. Et les 30 cm sont donnés par les satellites. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes données et qui ne sont probablement pas calibrées. Ce qu'il faut retenir entre les marégraphes et les satellites, c'est que les deux donnent la même tendance, c'est-à-dire une hausse très régulière, très linéaire, qui témoigne sans doute d'un phénomène bien plus profond que simplement une...
Et qui serait dû à quoi, alors, justement ?
Alors ça, bon, ça,
mais
ça,
il
faudra...
Mais c'est le moment de revenir à l'histoire,
oui.
Puisque vous êtes historien.
Mais bien sûr, mais on va y revenir, évidemment.
Et revenir à l'histoire du climat, comme le roi Ladurie, notre bien ami entendu. Emmanuel Garnier nous le raconte, ou bien les spécialistes des climats anciens. N'oublions pas qu'il y a 18 000 ans, ce qui pour nous n'est pas si long que ça, nous étions au maximum de la dernière glaciation. Les glaces descendaient bas, il y avait, je crois, 1 kilomètre de glace sur le lac Léman. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'arrivaient les glaciers jusqu'à Fourvière, à Lyon, où on montre toujours cette moraine qui est peut-être d'une glaciation plus ancienne, je ne me souviens pas exactement, mais en gros, le monde était englacé il y a 18 000 ans. Et puis, depuis 18 000 ans, on a un réchauffement qu'on attribue avec Milankovitch à des petits changements de l'orbite de la Terre autour du Soleil dus à des perturbations essentiellement liées aux grandes planètes géantes que sont Jupiter et Saturne. Donc ce sont des effets très fins, mais qui ont été compris par Milankovitch dans les années 20 du XXe siècle et qui sont maintenant acceptés par tout le monde. Depuis 18 000 ans, le monde se réchauffe, il s'est déglacé. La mer est montée de 125 mètres. 12 500 cm, hein, comparez ça aux valeurs dont on est en train de parler. La température moyenne du globe a augmenté sans doute de quelque chose comme 8 degrés Celsius. Et il y a eu des moments où en quelques décennies, les changements étaient bien plus grands que les changements actuels. Donc la Terre a connu des changements bien plus importants et en vitesse et en amplitude que ceux qu'elle connaît actuellement. Nous ne sommes pas entrés dans un régime anormal, nous sommes dans un régime normal. Et la remontée du niveau des mers actuelles correspond à des évolutions qui se font très calmement depuis 6 ou 7 000 ans. Le début avait été marqué par quelque chose de très fort, c'est une baisse au contraire du niveau des mers à certains endroits comme la Scandinavie, parce que les glaciers qui avaient fondu laissaient la croûte terrestre remonter, rebondir. Donc il y a des tas d'effets qu'on connaît bien, dont il faut prendre en compte, et qui expliquent en partie cette tendance de 20 cm par siècle.
Et pourtant, effectivement, la banquise fond quand même. Enfin, il semblerait qu'il y en ait de moins en moins. Les glaciers reculent malgré tout. Mais comme vous le disiez, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, on reparlera du Groenland tout à l'heure. Mais Groenland, c'est Greenland, c'est le pays vert.
Alors, élément du débat. Oui, un certain nombre de glaciers, pas tous et pas partout, reculent. Oui, la banquise arctique a reculé pendant un certain nombre d'années depuis qu'on y prête attention, et en particulier depuis qu'on a des satellites, parce que malheureusement, elle n'est pas connue depuis très longtemps. L'alerte principale pour la banquise arctique a été donnée il y a quelques années, où en effet, pendant les 10 premières années d'observation, elle n'avait cessé de décroître. Et puis depuis 3 ans, elle est remontée au niveau qu'elle avait 3 ans avant. Nous sommes encore probablement face à une de ces fluctuations décennales qui n'est pas la traduction du climat, qui est plus courte, qui est inévitable, qui n'est pas d'amplitude anormale. Qui plus est, de l'autre côté de la Terre, pôle sud, l'Arctique, lui, est plutôt en train de croître.
L'Antarctique, tu veux dire.
L'Antarctique, merci de me corriger. L'Antarctique, il y a une fine péninsule, la péninsule ouest antarctique, qui a tendance à fondre, mais la masse de l'Arctique a tendance à augmenter. Donc ce sont des problèmes de bilan. Et dans ces problèmes de bilan, l'augmentation de la fonte des glaces pourrait, qui plus est, être tout à fait d'origine naturelle, dans la mesure où, vers l'an 1000, on a connu une période d'optimum climatique au cours de laquelle la banquise du Groenland était probablement plus réduite qu'aujourd'hui, au cours de laquelle les Vikings avaient peuplé en partie le Groenland, qu'ils ont dû ensuite abandonner quand on est revenu dans une période de froid. Donc on a plein de raisons de penser que ce qu'on observe aujourd'hui, ou de penser qu'on ne peut pas montrer qu'on soit sorti du régime naturel des fluctuations qu'on observe à l'échelle des siècles, des milliers d'années. On pourrait parler de ce que valait l'optimum climatique de l'an 1000, le roi la durée en a beaucoup parlé, qui, par certains aspects, pour la végétation, les récoltes, n'était pas si désagréable que ça.
Encore une fois, Groenland, c'est Greenland, c'est le pays vert, les vertes vallées. Et d'ailleurs, c'est comme ça, et c'est par la fonte du Groenland que les Vikings ont pu aller jusqu'en Amérique. On le sait aujourd'hui.
En partie.
Après, évidemment, il y a les événements extrêmes pour Madame Michu, comme pour moi d'ailleurs. On a des films comme The Day After, il y a quelques années. C'est l'arrêt du Gulf Stream, c'est des tornades toutes les 5 minutes, c'est l'épouvante absolue et la catastrophe imminente. Rien de tout ça.
Alors, le rapport du GIEC est publié en gros tous les 5 ans depuis plus d'une vingtaine d'années. Et dans le quatrième de ces rapports, en effet, et dans les rapports précédents, on évoquait comme preuve du réchauffement climatique et lié à lui une augmentation de la fréquence de ces événements extrêmes et de leur amplitude. Les sécheresses, les inondations, enfin dans tous les sens. Attention à bien lire le cinquième rapport du GIEC, le dernier qui a été publié. Ce rapport a annulé, et beaucoup de gens l'oublient, cette observation. Il n'y a pas d'augmentation statistique démontrable des événements extrêmes depuis quelques décennies.
Vous êtes en train de dire que le GIEC a changé sa position et que c'est tout à fait téléchargeable en ligne ?
Tout à fait. Le GIEC, il faudrait revenir sur ce que c'est que le GIEC, c'est quelque chose de compliqué, mais ce GIEC qui est une émanation de l'ONU a pour mission de remettre tous les 5 ans environ une synthèse de toutes les recherches qui ont été faites sur les problèmes de climat en s'axant essentiellement sur la démonstration du réchauffement climatique. Donc notre avis est que leur feuille de route est un peu biaisée.
Oui.
Mais ce sont, alors, une grande partie des gens qui participent au GIEC ne sont pas des scientifiques. Mais dans le GIEC, il y a des scientifiques. Il y a plein de scientifiques honnêtes, intelligents, courageux et qui pensent ce que pense le GIEC. Parce que, je disais, il y a un droit au débat. Et si ça se trouve, c'est eux qui ont raison et nous qui avons tort. La seule chose que je refuse, c'est qu'on nous interdise le débat. Nous pensons avoir assez d'éléments pour penser qu'ils se trompent. Eux, bien évidemment, ils pensent que nous nous trompons. Et c'est ça le débat scientifique. Il faut la liberté avancer, aussi. C'est ce qu'on appelle la liberté. Donc par rapport aux événements extrêmes, le GIEC a été capable de corriger une observation. Et nous pensons là qu'il n'y a plus personne, ni au GIEC, ni parmi les climato-réalistes, qui défendent l'idée d'une augmentation inquiétante et même visible des événements extrêmes. Une illustration avait été faite pour les tornades qui affligeaient ou affectaient les États-Unis, je crois, dans laquelle on avait cru d'abord que les tornades les plus importantes augmentaient. Puis quand on a fait une analyse plus fine, on s'est aperçu que c'était essentiellement dû au changement de la population, de la densité de population affectée par ces tornades, et au fait que les gens intéressés par les remboursements faisaient de plus en plus de déclarations aux assurances. Et c'est anthropique, mais évidemment, c'est le comportement aux assurances et la densité qui étaient les facteurs du changement, pas le climat.
C'est fantastique. Alors, et les ours polaires dont on nous rabat les oreilles.
Moi,
j'ai une jeune fille, elle a 8 ans, ma fille, et alors dans ses livres d'école, il faut pleurer sur les ours.
C'est un scandale, et vous pourrez rassurer votre fille. Il y a un rapport qui vient d'être remis par une spécialiste canadienne du comportement des animaux. Ils ont fait maintenant des comptages importants. Jamais la population des ours n'a été en aussi grande forme et aussi nombreuse depuis des années. Et les moments d'alerte devant la dépopulation des ours sont maintenant attribués à des comportements de braconnage. Donc les ours vont bien.
C'est quand même incroyable que personne n'en parle.
Mais je dirais que c'est quand même quelque chose. Enfin, là, on va rentrer aussi dans une autre analyse. C'est qu'est-ce qui affecte.
À qui profite le crime, pardon, pour la question.
À qui profite le crime, mais... Les médias vivent de l'angoisse qu'ils créent.
C'est ça.
Les titres des journaux, quand ils sont inquiétants ou angoissants, font vendre mieux le journal. C'est donc la faute de ceux qui les achètent, c'est-à-dire nous.
C'est ça.
Nous aimons la peur et les rédacteurs en chef le savent tous. Le rédacteur en chef du fameux quotidien du soir, souvent cité en France il y a quelques années, me disait qu'il vendait 30% de numéros du journal de plus les jours où il annonçait en 6 colonnes à la une le crash d'un avion ou quelque chose de particulièrement inquiétant. Et des choses inquiétantes, on en a. Notre message principal va être, là je suis presque dans la conclusion, mais on va y revenir, profite du moment où nous en sommes. Il y a tant de raisons d'être inquiet des développements nationaux et internationaux dans le monde ensemble qu'on peut rassurer les gens, le climat, c'est pas ce qui doit vous faire peur.
Bon, alors, le climat, on en parlait, hein, on va maintenant aller un peu plus loin. Il a toujours changé, toujours évolué, vous le disiez. Hein. Est-ce qu'il a toujours autant changé? Parce que finalement, ça m'est arrivé de discuter avec pas mal d'historiens aussi, qui me disent, mais oui, t'as raison, effectivement, le climat a toujours changé, mais jamais aussi vite.
Alors, c'est en effet la réponse qui est donnée. Alors, donc, vous avez donné vous-même, à juste titre, la réponse à la première partie de votre question. Oui, le climat a changé. Oui, le climat change à toutes les échelles de temps, à l'échelle du siècle, du millénaire, des 10 000 ans, des 100 000 ans, du million d'années. Si vous regardez le climat qui faisait au moment de la fin des dinosaures, il y a 65 millions d'années, la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique était une dizaine de fois supérieure à la teneur actuelle. La température était en effet plus chaude. Il y avait des palmiers et des crocodiles au Spitzberg. Les animaux se portaient plutôt mieux. Les grandes périodes de drame sont plutôt les périodes de refroidissement que les périodes de réchauffement. Mais en effet, la question, c'est la vitesse. Et quand on reconstitue les températures à l'échelle du millier d'années, comme l'ont fait un certain nombre de chercheurs, par exemple un chercheur qui a fait un article important dans la revue Nature, qui fait référence, qui s'appelle M. Moberg, je crois que c'était en 2007, donc ça n'est même pas si récent que ça. Il a réussi à reconstituer les températures des 2000 dernières années à partir des anneaux d'accroissement des arbres et puis, un petit peu plus compliqué, des isotopes de l'oxygène. Donc avec des indications dans des carottes de sédiments et avec des tranches d'arbres dont il a mesuré les anneaux d'accroissement.
La dendrochronologie,
il a réussi à reconstituer 2000 ans de variation de température. Et c'est là qu'on retrouve que la vitesse de réchauffement irrégulière, comme l'a rappelé Benoît Ritot tout à l'heure, puisqu'au XXe siècle, ça a d'abord monté. Et je rappelle, j'insiste là-dessus, ça a monté autant entre 1910 et 1940, autant et aussi vite qu'entre 1970 et 2000. Et entre les deux, il y a une période de refroidissement. Ce qui veut dire que ça allait vite quand il n'y avait pas beaucoup de dégagement de gaz carbonique. Ça, quand le dégagement de gaz carbonique a accéléré après la Seconde Guerre mondiale, la température a refroidi. Ça n'est que la période 1970-2000 qui a un peu fait peur à tout le monde et sur laquelle on s'est fixé en oubliant de la regarder avec recul. On a regardé 30 ans, il fallait regarder 100 ans, il faut regarder 1000 ans. La vitesse moyenne et les irrégularités qu'on rencontre au XXe siècle, on les rencontre vers l'an 1000. Aussi bien la montée vers l'optimum climatique de l'an 1000 que la redescente dans le petit âge glaciaire qui a duré du XIIIe, XIVe siècle à la fin du XIXe. On vient de sortir d'un cycle froid qui est un cycle qu'on ne peut pas attribuer au gaz carbonique puisque en l'an 1000, les dégagements de gaz carbonique étaient modérés.
Beaucoup plus légers qu'aujourd'hui. C'est vrai que moi je connais des textes des Pays-Bas de l'an 1000, 1200, 1300 qui racontent tout ça. Donc je connais effectivement le phénomène. Benoît, vous voulez rajouter quelque chose ?
Je suis pleinement d'accord.
Avec... Oui, oui, bien.
pour montrer combien... Il y a aussi le fait que c'est difficile de dire si ça va vraiment plus vite aujourd'hui, parce que c'est difficile d'avoir une résolution
bien
temporelle.
Bien entendu, c'est pas assez long.
On peut dire aujourd'hui raisonnablement ce que fait la température sur les 30 dernières années, mais est-ce que entre l'an -5832 et l'an -5820, il y a eu une accélération ou une pause ? C'est difficile. On a des courbes qui sont beaucoup plus lisses parce que les données sont plus éparses dans le passé.
Pour avoir travaillé un petit peu sur le sujet, j'ai rêvé ou pas, mais au départ, c'était pas le réchauffement qui était prôné, c'était plutôt un refroidissement. Or, personne ne l'écoutait.
Alors, ça dépend quand vous lisez les journaux.
Dans les années 68-70.
Voilà, donc mon âge fait que c'était les années où j'étais étudiant et je me souviens très bien, en effet, de ce que disaient les journaux. On sortait de cette période qui va de 1940 à 1970 où la température globale a plutôt baissé. Et c'est intéressant, j'ai pas la citation ici, mais certains disaient « c'est affreux, on va vers le froid, on va vers une nouvelle ère glaciaire, ça va être une catastrophe, il faut faire quelque chose pour réchauffer l'atmosphère ». Il était même recommandé de brûler du pétrole pour lâcher du gaz carbonique dans l'atmosphère pour la réchauffer. Vous trouverez des articles dans les journaux, dans le New York Herald Tribune de 1971-72, et vous trouverez, chose plus amusante, que certains de ceux qui criaient « au loup » en disant « on va vers le froid, c'est terrible », sont les mêmes que ceux qui, 30 ans plus tard, crient « au loup, on va cramer ». Bon, on pourrait s'étendre là-dessus, mais même le conseiller scientifique du président Obama, qui est un grand scientifique et un président que, à titre personnel, moi j'apprécie beaucoup, il a été persuadé qu'on allait brûler. Il faisait partie de ceux qui étaient persuadés qu'on allait geler. Ça montre que les extrapolations de tendances trop courtes ne tiennent pas. Le climat, c'est le long terme. Il faut être prudent.
Et ça prouve aussi qu'on s'excite assez facilement sur le sujet. C'est quand même incroyable.
C'est vrai. Le climat a de tout temps été la base de beaucoup d'émotions, de beaucoup d'attentions dans des civilisations où la météo et l'agriculture étaient importantes et où les changements éventuels à long terme de cette météo étaient importantes. Il faut aussi voir, et c'est ce qu'on a dit avec les médias et ça se dit avec le pouvoir, qu'on gouverne mieux des gens qui ont peur.
Effectivement, oui, c'est vrai, c'est très vrai. Depuis toujours, je suis d'accord. Malgré tout, tout ça fait qu'aujourd'hui, quelque part, il y a quand même des avancées. On a des voitures électriques, ce qui est quand même mieux, parce que d'abord, c'est plus calme, ça fait moins de bruit. C'est pas si mauvais que ça, finalement, ce débat. Et cet emballement, y compris des politiques.
On est dans un autre,
on va arriver au CO2,
secteur, de réflexion. Mais bon, l'idée qu'on va faire peur aux gens et on va leur raconter n'importe quoi pour qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent est un peu dérangeant si on est démocrate.
C'est mon côté démocratique, ça.
Je ne peux pas être d'accord avec ça.
J'entends.
Mais bon, alors le gaz carbonique...
Il y a un côté de dictature de la pensée dans ce que vous dites.
Au contraire, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire, on ne doit pas mentir aux gens pour qu'ils agissent bien.
Mais on est donc dans une sorte de dictature de la pensée.
Dictature, une tentative de faire peur, disons que la fin justifie les moyens. Quoi. C'est plutôt
cette dictature de la pensée, c'est le rationalisme et c'est le fait de suivre la raison. On est dictateur, mais il est évident qu'on ne pense pas.
Je parlais pas de vous, je parlais au contraire des gouvernants.
Mais il faut faire. Moi, je nous applique les mêmes critères qu'au camp opposé. Un débat scientifique, c'est un débat. Ça consiste à se respecter, mais ça consiste évidemment à avoir un langage commun. Une des choses sur lesquelles on a insisté, c'est les observations. Le triangle de la science, c'est en gros faire des observations, mettre sur pied des théories, et ensuite, maintenant, grâce aux ordinateurs, écrire des programmes pour essayer de faire avec eux ce qu'on n'est pas capable de faire sans eux. Il doit y avoir un aller-retour permanent entre les observations et les résultats de ces modèles sur les ordinateurs. Il est évident que ce qui est essentiel, c'est d'avoir pris en compte la physique et d'évaluer les incertitudes. Ce n'est pas dogmatique ni dictatorial que de dire « vous avez négligé des incertitudes essentielles sans lesquelles vous ne pouvez pas affirmer ce que vous dites ». Notre principale critique, et la mienne en tout cas, au GIEC, ça n'est pas tellement leur théorie, qui est peut-être défendable, même si je la crois en partie insuffisante. C'est essentiellement de dire, il n'y a que celle-là qui soit vraie, vous devez y faire attention, et nous sommes sûrs à 95% de ce que nous disons. Des conclusions dans une science encore si jeune, si nouvelle, si difficile, si incertaine, à 95%, ça me paraît déraisonnable, et je pense que, mais on pourra dire que nous nous trompons, je pense que les faiblesses que nous pointons montrent bien que cette théorie n'est pas complète. Nous n'en avons d'ailleurs pas de notre côté, nous montrons que simplement, on peut difficilement engager le monde sur des choses aussi incertaines.
Alors, il y a un gros morceau maintenant que je voudrais aborder, c'est le CO2. Moi, j'ai vu il y a quelques temps, enfin oui, tout le monde a vu, l'emballement sur le CO2, méchant CO2. Moi, j'ai toujours appris à l'école, j'aimais pas trop la biologie, j'y comprenais pas grand-chose, mais j'ai toujours appris que le CO2 était utile à la vie. Or, maintenant, il a l'air d'être dangereux. Est-ce que je me trompe?
C'est le grand méchant CO2.
Mais c'est ça, oui.
Effectivement, c'est lui qui est censé être le grand réchauffeur de la planète, et donc nous, à travers lui, puisque c'est nous qui l'émettons. Alors effectivement, on ne dit plus. Il y avait même il y a quelque temps une publicité qui vantait un monde sans CO2.
Voilà, c'est ça. Que, on serait tous morts.
Sans se rendre compte que là, pour le coup,
fait.
On est vraiment dans l'anti-science. On est dans la communication contre la science, parce qu'effectivement, c'est le cycle de la photosynthèse. C'est très connu, et là, pour le coup, il y a aucun élément de doute à ce propos, c'est que le CO2, en un mot, c'est ce que consomment les plantes pour croître, et le CO2, d'une façon générale, est largement positif pour la biosphère. C'est pas juste un raisonnement théorique, c'est quelque chose qui a été observé. Et l'an dernier, il y a eu une publication très intéressante et très importante dans Nature à nouveau, qui fait le bilan de 30 années d'observation satellitaire de la Terre, et qui mesure le verdissement, le niveau de vert. On regarde où c'est vert sur la Terre, donc aujourd'hui et il y a 30 ans. Et on constate que la Terre a verdi. Et pas qu'un peu, elle a gagné 11%. Donc la surface continentale de la Terre a gagné 11% de vert.
Ce qui est très bien, verdure, j'imagine.
Ce qui est évidemment positif. Il y a plus de biosphère aujourd'hui. 11%, ça correspond à un gros continent. C'est le niveau de l'Amérique du Sud ou de
l'Australie.
C'est vraiment énorme. Hein, c'est tout à fait considérable. Et là, pour le coup, effectivement, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère en est probablement une des causes majeur, les auteurs de l'article estiment que c'est 70% de la cause du reverdissement. Donc malgré la déforestation, malgré l'urbanisation, la Terre est de plus en plus verte.
C'est incroyable. Alors quand je vous écoutais tout à l'heure, professeur, vous aviez l'air de dire que la corrélation des chiffres entre le CO2 et la montée des températures, en vous écoutant, j'avais l'impression que c'était l'inverse de ce qu'on dit, c'est-à-dire que le CO2 croît avec le réchauffement et non pas l'inverse, il ne crée pas le réchauffement, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Pas tout à fait, je me suis mal exprimé, mais la réponse c'est ni l'un ni l'autre. Il y a au XXe siècle des périodes d'accroissement de la température et des périodes de décroissance de la température. Il y a des périodes d'accélération de plus en plus grande de la quantité de CO2 relâchée par l'homme dans l'atmosphère, ça c'est indiscutable, en brûlant des combustibles fossiles qui ont mis des millions d'années à s'accumuler. Toute cette partie du raisonnement est tout à fait juste. Il n'en va pas moins que la concentration est très faible, hein. N'oublions pas, c'est 400 parties par million. Donc la teneur du gaz carbonique de l'atmosphère est quand même quelque chose d'important, mais de très très faible. Mais surtout, la corrélation entre l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température est mauvaise. Il y a des moments où ça va dans un sens, des moments où ça va dans l'autre.
Donc ça n'a rien à voir, en fait.
Donc, en tout cas, ce n'est certainement pas ça qui peut appuyer la théorie. Peut-être qu'elle est vraie, mais la corrélation dans ce cas-là est très mauvaise, alors que la corrélation avec d'autres indicateurs, en particulier des indicateurs du comportement de l'océan, est bonne. Alors ça nous oblige à revenir un peu dans la météo et le climat de l'océan. On sait aujourd'hui que l'océan est un milieu turbulent, complexe, chaotique, comme on le disait tout à l'heure, qui de temps en temps a des instabilités que presque tout le monde connaît sous le nom de El Niño. Oui. C'est un événement dans lequel de l'eau chaude se développer en gros vers les Philippines, dérive à travers l'océan Pacifique, se retrouve au large des côtes de l'Amérique du Sud et modifie les précipitations, modifie la pêche parce que les nutriments ne remontent pas de la même façon, les poissons disparaissent, donc il y a des crises qui se passent en général aux alentours de Noël. El Niño, c'est Jésus, et donc c'est pour ça qu'on a appelé ces événements El Niño. Eh bien, ces événements qui sont des événements météorologiques, qui durent 1, 2, 3 ans sont des événements extrêmement importants et ils ont une bonne corrélation dans l'évolution de leur fréquence avec l'augmentation de la température. Donc il y a une bonne corrélation entre température de l'atmosphère et certains indicateurs de l'océan. Et ces indicateurs de l'océan, on voit guère comment ils pourraient être pilotés par le CO2. Donc c'est plus des choses qui ne marchent pas que des choses qui marchent bien. En tout cas, la corrélation n'est pas évidente. Le rôle du CO2 est probablement réel, mais ce à quoi on va arriver rapidement dans notre discussion, j'imagine, c'est de dire qu'il a probablement été largement surestimé, et le rôle des phénomènes naturels, et en particulier ce qu'entraîne l'océan et ce qu'entraîne le soleil, sous-estimé, ce qui, en soi, dans un débat scientifique, n'est pas dramatique, mais dont les conséquences, quand on n'y fait pas attention, peuvent l'être.
Vous êtes en train de dire que le soleil peut influer, enfin, évidemment, il influe sur le climat de la Terre. Ça paraît logique et il aurait une importance ?
Mais vous voyez, vous avez dit, ça paraît évident. Oui. Ben oui, ça paraît évident. Et d'ailleurs, tous les climatologues, et en particulier tous les climatologues du GIEC, à mon avis, sont d'accord avec le fait que le Soleil a presque toujours été le déterminant principal, le pilote principal du climat. C'est le cas à travers l'orbite de la Terre dans les variations qui vont d'une glaciation à l'autre, hein, ces fameux cycles de Milankovitch qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai à la période de 1000 ans, si on regarde l'optimum du Moyen-Âge, la période chaude, le fait qu'il y en a probablement une 1000 ans avant et 1000 ans avant, il y a peut-être une périodicité de l'activité du Soleil de l'ordre de 1000 ans. Le fait que le Soleil soit important et reconnu par tous, jusqu'en 1950, je caricature un peu. Et puis depuis 1950, pour les gens du GIEC, le CO2 d'origine humaine se serait mis à être plus important que le Soleil et serait responsable de ce qu'on observe dans les 50 dernières années, quand on les compare aux 4 derniers milliards d'années.
Bon, alors donc, c'est maintenant la grande question. L'homme est-il responsable ? Le grand responsable, le grand méchant loup.
Ah bah toujours. On a toujours été le grand méchant loup. On parlait tout à l'heure de religion. Là, la culpabilité, notamment chrétienne, ou judéo-chrétienne. Alors, j'ai
soyons
un ami qui m'a dit que c'était plutôt chrétien et pas tellement
oui, peut-être,
laïque.
Oui.
Alors, on peut entrer dans ce débat, mais l'expression consacrée, effectivement, c'est plutôt judéo-chrétien. Alors, l'homme émet effectivement du gaz carbonique, ça personne ne le conteste. Mais ça a un rôle positif pour la biosphère, je le rappelais. Est-ce qu'on est la cause du réchauffement? On ne peut évidemment que dire que quand on fait quelque chose, ça agit. Donc l'homme a évidemment un impact sur le climat.
On ne peut pas ne pas être responsable.
On ne peut pas ne pas être responsable de quelque chose. La question, c'est à quelle échelle. Donc ça, une des questions principales pour répondre à ça, enfin un des outils principaux pour répondre à ça, c'est la question de ce qu'on appelle la sensibilité climatique. On en a dit un mot tout à l'heure. C'est si on double la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, de combien est-ce que ça réchauffe la Terre ? Et il y a ces dernières années, donc plusieurs études qui ont été publiées pour évaluer la sensibilité climatique. Et on se rend compte, ça c'est un phénomène d'histoire des sciences qu'on pourra analyser quand tout ça sera terminé, on se rend compte que publication après publication, la sensibilité climatique diminue. On était à 2-3 degrés il y a quelques années, et puis petit à petit on est en train de revenir à des sensibilités climatiques plus raisonnables. Donc même si on accepte la théorie générale comme quoi les émissions humaines de gaz à effet de serre réchauffent l'atmosphère, il semble qu'on est en train progressivement de se dire que ça n'est pas, elles ne sont pas, probablement pas susceptibles de le réchauffer tant que ça.
Est-ce que les politiques ont raison, selon vous, de s'y associer, enfin, d'être des leaders dans ce domaine-là ? Moi, j'aurais tendance à penser non, parce que dès que les politiques touchent à quelque chose, c'est raté. Mais c'est mon opinion personnelle.
Bon, il ne s'agit pas de juger les politiques. Là, on est obligé, ça c'est ce que fait souvent Vincent, je l'ai vu dans ses émissions, c'est qu'il faut dire, là on change de casquette, on a la casquette du scientifique.
Non mais on est aussi citoyen,
mais on change de casquette, et donc là on met sa casquette de citoyen, et il faut bien séparer les deux. Alors ce qu'on peut dire en effet, à mon sens, c'est qu'à chaque fois que la science et la politique se mettent ensemble, c'est un désastre pour la science.
Galilée, on sait quelque
ça,
chose.
Galilée, c'est encore pas forcément l'exemple le plus significatif.
C'est pas mal,
il y a des exemples plus récents sur la science de l'eugénisme, par exemple, sur le lysenkisme, donc en Union soviétique. Lysenko était un ingénieur agronome qui pensait révolutionner l'agronomie en niant les lois de Mendel et a eu l'oreille de Staline. Il y a toute une histoire passionnante qu'on peut rapprocher, évidemment pas dans tous les points, mais par certains points de cette affaire du climat, c'est-à-dire cette alliance entre l'idéologique, le politique, le scientifique. Ça, la science perd, ça généralement elle perd, parce qu'elle croit bien faire, les scientifiques pensent qu'ils sont protégés par leur savoir technique et intellectuel, et qu'ils sont à l'abri de la récupération, et en pratique ça ne marche jamais.
évidemment. On a inventé en France, mais je ne sais pas si ça existe ailleurs, le principe de précaution, donc, qui fait qu'on a peur dès qu'il se passe quoi que ce soit. Est-ce que ça joue là encore sur...
Je pense que le principe de précaution est une des grandes catastrophes qui s'est introduite de façon incompréhensible dans notre Constitution. Je dirais tout simplement, la précaution, c'est évidemment quelque chose d'important. Ça s'apprend dans la famille, ça s'apprend à l'école. Ça ne s'impose pas par les lois parce qu'on ne sait pas définir les outils qu'on donnerait au juge constitutionnel pour dire « vous n'avez pas appliqué le principe de précaution ». Le principe de précaution va avec une autre idée qui est le risque zéro. On a de plus en plus peur de tout. Je pense que c'est entretenu, hélas, par les médias qui y voient leur intérêt. Cette peur augmente au cours du temps. On a vu qu'elle faisait vendre. Et les gens veulent maintenant ne plus rien risquer. Ce qui revient à ne pas savoir mesurer, je vais faire une parenthèse, j'espère pas trop longue, c'est la définition de la notion de risque zéro. Si vous parlez d'un médicament, d'une molécule chimique, si vous la prenez diluée à des teneurs très faibles, elle peut être un bon médicament. Si vous la prenez à des teneurs très fortes, elle peut devenir un poison. Donc la molécule en elle-même n'est pas mauvaise ou bonne. La concentration est la chose importante. Les probabilités, c'est un peu comme les concentrations. Si on veut ne rien risquer, eh bien c'est impossible. Et je dis parfois... je suis face à un mathématicien éminent, qu'en utilisant la fonction logarithme, le logarithme de zéro vaut moins l'infini. Le risque zéro, c'est infiniment stupide et infiniment cher, et que ça se démontre donc mathématiquement. En tout cas, ça coûte très cher, ce n'est pas raisonnable. On ne peut jamais atteindre le risque zéro, ou alors on l'atteint quand on est mort. La mort, et là, il n'y a plus de risque.
Ça, on est bien d'accord. Voilà. Avec les logarithmes, vous m'avez perdu, mais donc, j'ai bien compris la fin.
Le principe de précaution n'est pas un principe qui me paraît opératoire au niveau constitutionnel, même si au niveau du bon sens et de l'action de tous les jours, il vaut mieux exercer la précaution. On n'est pas en train de dire le contraire.
Évidemment. Comment est-ce qu'un mathématicien, Benoît, en arrive à s'occuper du climat ?
Bon, ça, non, mais c'est... je ne sais pas si c'est si intéressant que ça. Je ne m'y suis pas intéressé en tant que mathématicien.
Et en quoi ça peut vous aider, au contraire ?
Mais plutôt en tant qu'individu qui aime réfléchir. Je crois qu'on est nombreux chez les climato-réalistes à avoir suivi un peu le même genre de parcours. C'est-à-dire que dans un premier temps, on n'a aucune raison de douter de ce que raconte le GIEC parce que ce sont nos collègues et on y adhère par principe. Et puis, pour une raison ou pour une autre, on va voir un petit peu derrière et on se rend compte... que, bah, curieusement, ça ne se passe pas comme d'habitude. C'est-à-dire que quand on va voir derrière, d'habitude, ça se passe bien et on retrouve le discours scientifique pondéré, rationnel, raisonnable, qui sait faire la part des choses, qui sait mettre en évidence les incertitudes et les limites des théories. Et là, pas du tout, on a affaire à quelque chose de vraiment fondamentalement différent. Donc, en un sens, la science est un peu attaquée dans ses principes, dans sa façon de fonctionner. Et donc, je crois que comme d'autres, c'est un petit peu ça qui m'a donné envie d'intervenir.
Je comprends. Et comment vous, professeur, alors que vous disiez que vous êtes intéressé à l'intérieur de la Terre et puis d'un coup, l'extérieur.
Le schéma de Benoît est tout à fait juste. Je me suis intéressé à la dérive des continents et pour cela, à la formation du Tibet et de l'Himalaya. Pour cela, il me fallait mesurer les mouvements de ces continents et je les mesure avec le magnétisme fossile qui est enregistré dans les roches. Alors, ça vaudrait une émission, mais je ne peux pas le faire ici, d'expliquer comment et pourquoi ce qu'on appelle le paléomagnétisme me permet d'être un mesureur de dérive des continents. Puis à partir de ça, on a découvert qu'en Inde, il y avait une masse énorme de lave. Il faut voir, 3 km d'épaisseur sur une surface qui est à peu près celle de la France. D'accord. C'est donc un objet volcanique absolument exceptionnel qu'on pensait s'être mis en place en des millions d'années très lentement. On a réussi avec nos techniques à montrer qu'il s'était mis en place très vite, puis à le dater. Et on a vu qu'il avait l'âge de la fin des dinosaures. Et donc on s'est dit, tiens, ce volcanisme ne serait-il pas responsable de la disparition des espèces, des extinctions en masse ? Comment, quel est le mécanisme ? Ce sont les gaz crachés par les volcans. Et on a pu mesurer les teneurs en gaz, les vitesses d'émission et ce que ça avait pu faire au climat. Et voilà comment, travaillant sur ce sujet, je me suis intéressé aux aspects climatiques auxquels je n'avais pas travaillé en m'adjoignant des collègues compétents qui étaient formés en modélisation climatique. Et puis, il y a eu toutes ces histoires du GIEC comme citoyen et comme professeur d'université. J'ai enseigné les théories du GIEC pendant 3 ou 4 ans, n'ayant pas travaillé dessus. Et puis, un autre aspect de ma carrière, c'est d'avoir travaillé avec mon collègue Jean-Louis Lemoël sur le magnétisme actuel, la façon dont le champ magnétique fluctue à l'échelle des siècles, justement. Nous avons un observatoire où nous mesurons le champ magnétique depuis 1883 en France. On a justement cette homogénéité de données sur le long terme qui fait qu'on sait regarder les évolutions de type climatique du champ magnétique terrestre. Et on sait qu'elles sont influencées par le Soleil. Et en étudiant plus en détail ces variations, on s'est aperçu que le rôle du soleil était essentiel. Et on s'est dit, mais comment se fait-il que ces gens qui travaillent sur le climat sont en train de dire, c'est le gaz carbonique, le soleil n'a plus d'effet. Et à chaque étude que nous faisions, nous trouvions un effet du soleil important et qui n'avait pas été signalé jusqu'à présent. Donc petit à petit, on s'est trouvé embarqué dans cette affaire sans avoir, comme on dit en anglais, un axe to grind. On n'était pas là pour démontrer un point de vue a priori. On s'est trouvé emmené par les observations à dire, mais attention, vous avez des incertitudes beaucoup plus grandes, des mécanismes qui vous échappent dans les nuages, un rôle du soleil qui a été beaucoup plus important dans le passé. La somme de tout ce que nous observons, c'est des petites pierres qui ne nous donnent pas la théorie, mais qui nous font penser que vous avez quand même dû louper quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant à nos auditeurs, à Madame Michu, qui n'a peut-être plus peur? Donc, on n'a plus besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin d'avoir peur. Est-ce que finalement, ce n'est pas si mauvais que ça, puisque ça a déjà eu lieu, on n'est pas mort, au contraire, puisque j'ai tendance à dire qu'au contraire de ce qu'on entend, le Moyen-Âge est plutôt quelque chose de bénéfique plutôt que quelque chose de mauvais, etc. etc. Donc, est-ce qu'on va plutôt vers des belles années?
On ne doit pas porter de jugement moral sur ce qui est bien et sur ce qui est mal.
Certes. Le camp d'en face, mais j'aime pas cette idée de camp. Mais comme on entend très souvent c'est catastrophique et on va plus vers le catastrophisme, est-ce que, sans aller vers un angélisme, est-ce qu'on peut se dire, écoutez, sans dire dormez, tout va bien?
Le catastrophisme, effectivement, n'a pas lieu d'être.
Voilà.
Il n'est pas étayé. Et effectivement, les années plus chaudes, enfin, un léger réchauffement, a priori, est plutôt bénéfique. Ça, c'est à peu près clair.
Alors, je suis d'accord avec Benoît et je voudrais reprendre une chose qu'il a dite tout à l'heure. On entre, pour les minutes qui nous restent, dans ce domaine où je change de casquette et je tiens absolument à séparer les avis que je peux avoir comme citoyen qui sont à discuter avec tous les autres citoyens sur un pied d'égalité et les compétences techniques d'experts qui, même si elles valent débat, font que c'est quand même un débat entre experts. Il faut avoir certains outils scientifiques et mathématiques pour se sentir armé. Et donc, c'est toujours délicat. On est dans une période de rejet des experts qui pose problème par ailleurs. Moi, je pense qu'il ne faut pas rejeter les experts, mais que les experts ont des obligations déontologiques. Donc là, j'enlève ma casquette de scientifique et je mets ma casquette de citoyen pour dire que il y a beaucoup de problèmes auxquels les hommes politiques qui sont nos représentants ne s'attaquent probablement pas assez. Des changements anthropiques, il y en a. La déforestation, c'est un problème. La mauvaise utilisation des sols, c'est un problème. Le fait de couvrir au contraire les sols d'asphalte et d'empêcher la circulation de l'eau qui entraîne des crues, y compris en France, c'est un problème. Donc il y a plein... La démographie et l'utilisation, la densité de population, les gens qu'on doit nourrir, c'est un problème. D'ailleurs, parenthèse, la population augmente. Pas aussi vite qu'on le craignait, d'ailleurs, car on était catastrophiste il y a 30 ans et on l'est beaucoup moins sur l'augmentation de la population mondiale. Il faut la nourrir. Comme l'a signalé Benoît, l'augmentation du CO2 se trouve augmenter la production végétale de l'ordre de 10%. Ça veut dire qu'on oublie complètement de mettre dans la colonne des bénéfices du CO2 la capacité à nourrir une partie des gens qui meurent de faim, qui sont peut-être une urgence plus grande que de savoir si la vigne va se déplacer de 100 km vers le nord ou vers le sud, ce qui est intéressant, ce qui s'est toujours produit, ce qui est important, et ce que les agriculteurs seront certainement traités sans problème.
J'ai lu que le Sahel reverdissait un petit peu.
Oui, comme la plupart donc des parties de la Terre. Alors, à ce sujet, effectivement, quand on dit il y a la Terre reverdit, c'est en moyenne.
Bien entendu.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des endroits où, au contraire, il y a une aridification locale, ici ou là, y compris au Sahel, il y a des endroits qui sont plus arides qu'avant. Mais en moyenne, effectivement, ça verdit. Et c'est même assez spectaculaire par endroit.
Je vais rebondir sur ce que dit Benoît. Si on veut donner des conseils aux gens, c'est leur dire attention, le climat moyen dont on vous parle et dont vous avez vu toutes les incertitudes n'est qu'un climat moyen. Ce qui importe, c'est le climat régional. Et le climat régional, c'est ce dont il faut reconstituer l'histoire. Si on a envie de savoir, si on habite à Saint-Nazaire, comment vont évoluer les côtes, est-ce que ça va s'ensabler, est-ce que ça va s'éroder, ça fait partie des évolutions. La meilleure façon de faire, c'est de faire des études sur les 4 ou 5 derniers siècles à partir des documents historiques, de la géographie, des études de terrain régional, géologique, et c'est avec ça qu'on saura quelle est la réponse locale. le niveau de la mer au sud de l'Angleterre, il monte, au nord de l'Angleterre, il baisse. Donc déjà, si vous êtes britannique, vous n'avez pas le même problème suivant que vous êtes en Écosse ou bien à Portsmouth. Bon, c'est vraiment ces études régionales qui sont les choses auxquelles il faut faire attention. Encore une fois, en se rendant compte que c'est certainement pas de là que viennent les inquiétudes principales.
Merci messieurs, je me sens plus intelligent avec vous. J'aime bien ça. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Benoît ?
Donc, je veux insister effectivement sur ce que dit Vincent, qui était un problème, je crois, assez général dans l'environnement, la façon qu'on a aujourd'hui d'aborder l'environnement. On a fait de l'environnement quelque chose de global. Et on ne peut plus parler d'environnement sans penser à l'échelle de la Terre et on mêle tous les problèmes. C'était très net à la fameuse COP 21 où on aborde tous les sujets en même temps. Et je pense que si on veut être, s'intéresser à l'environnement de façon intelligente, de façon efficace, on doit rompre, je pense, avec cette logique du global, du tout est lié, du tout est devant tout et réciproquement. Et au contraire, regarder les choses localement, c'est-à-dire retrouver un certain esprit d'analyse, qui est l'esprit scientifique, où on choisit un morceau du problème. On sait qu'on manque des bouts, on sait qu'on manque certaines interactions, mais vu la complexité de ce qui est en jeu, c'est la seule chose raisonnable à faire aujourd'hui.
Moi, il y a deux points que j'aimerais rajouter, qui est ponctuel. Simplement, je me rends compte que je regrette de ne pas l'avoir abordé plus précisément. C'est le problème de la prédiction. On nous prédit des augmentations de température, de niveau des mers, de tout ça, quantitatives au cours du 21e siècle. On a pu appliquer les modèles à des données anciennes pour essayer de prédire le comportement des dernières années, ce qu'on appelle la rétro-prédiction. On essaye de vérifier qu'un modèle est au moins capable de prédire. Et on sait maintenant, à partir d'observations qui n'avaient pas été faites au moment des prédictions, que 95% des modèles sont au-dessus, et parfois largement au-dessus, de ce qu'on a observé. Donc, la prévision par ces modèles échoue face aux tests statistiques normaux qu'on doit appliquer au modèle. Il y a 95 chances sur 100 pour que ces modèles n'aient pas capturé correctement la réalité.
Donc il faut affiner les modèles.
Les modèles actuels majoritairement ne prédisent pas bien ce qui a été observé. Comment pourraient-ils prédire ce qu'on n'a pas encore observé à l'échelle du siècle ? Donc ça, c'est un point qui s'ajoute à... c'est une des raisons pour lesquelles j'ai parlé tellement d'incertitudes.
Bien sûr.
Voilà une incertitude absolument majeure.
C'est de tout ce que je sais. Et puis, malgré tout ce que je sais, je ne sais rien d'un scientifique.
Et puis l'autre chose à laquelle je pensais en écoutant votre question et Benoît, c'est que autant le climat, passionnant sujet de recherche, ne devrait pas être un sujet majeur d'inquiétude, autant des choses qu'on lit parfois au climat sans que ça soit forcément justifié, sont importantes, et je pensais en particulier à la transition énergétique. Donc un sujet qui pourrait nous valoir une autre émission
serait
de vous parler de la transition énergétique et des grands problèmes que posent les éoliennes, les cellules photovoltaïques, le fait qu'elles ne fonctionnent pas tout le temps et le fait qu'on a la chance d'avoir en France un mix énergétique hérité de décennies de gouvernements successifs qui est plutôt le meilleur qu'on pouvait imaginer.
Et en plus, c'est totalement moche, mais ça... C'est vrai que ça rentre peut-être pas en ligne de compte. Messieurs, merci beaucoup. Benoît, on se retrouve dans la prochaine émission. Professeur Courtillot, merci infiniment. Vraiment, je me sens intelligent. Je trouve ça super. Retrouvez-nous sur la page Facebook, évidemment liée à Climat, l'échauffement des esprits de l'association des climato-réalistes. Merci à toutes, merci à tous. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos commentaires. Nous répondrons bien évidemment. À très vite, à la prochaine.